Bonsoir à tous et bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, Grégory Sirgue et au téléphone depuis Paris, Olivier Deugnot. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Salut. Salut. Je sais pas, vous m'entendez,
c'est bon. On vous entend, Olivier Deugnot.
Super.
Au sommaire de cette émission, du football avec la deuxième journée de Ligue 1, de la Formule 1 avec le Grand Prix des Pays-Bas et un point sur les Jeux Paralympiques qui débuteront mercredi. On enchaînera ensuite avec un débat sur les droits télé dans les différents sports et nous terminerons avec les coups de cœur de nos invités. On va donc commencer par le football. Grégory Sirgue, Olivier Deugnot, vous pouvez intervenir sur ce sujet tous les deux. La deuxième journée de Ligue 1 s'est terminée ce matin avec le match nul de l'Olympique de Marseille à domicile contre Reims. Grégory Sirgue, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette deuxième journée de Ligue 1?
Ce qu'on peut retenir, c'est que il y a une certaine hiérarchie entre les équipes qui est respectée quand même, bien qu'on soit que au tout début de saison, mais les ténors ont assuré leur rang. Et on a également eu quelques petites surprises, entre guillemets. Je pense notamment à Saint-Étienne qui, bien que remontant de Ligue 2, attendait beaucoup de sa première dans le chaudron de Geoffroy Guichard et qui a perdu face au Havre. Donc ça, c'était un peu une petite surprise. Et peut-être également Marseille, qui nourrit de grosses ambitions cette année, notamment avec un recrutement que je juge personnellement de qualité équilibrée et qui n'a fait que match nul. Et puis il y a Rennes, pareil, qui a fait un beau recrutement aussi et qui s'est pourtant incliné sur la pelouse de Strasbourg.
De Strasbourg, 3-1, absolument. Marseille, il y a un gros remaniement. On a vu, il y a beaucoup de changements par rapport à l'équipe de l'an dernier. Le premier match avait été prometteur, il y a beaucoup d'occasions ce matin. Ils ont énormément d'occasions. Il y a beaucoup de déchets devant le but. Ils auraient pu en mettre beaucoup plus. Donc ça reste quand même, je pense, assez intéressant pour eux de se dire que s'ils arrivent à convertir les occasions, ils se procurent des occasions. Donc ce qui n'était pas forcément toujours le cas jusqu'à présent. Par contre, effectivement, ils ont montré une fébrilité défensive qu'ils n'avaient pas forcément montré sur la première journée.
C'est ça, la défense, c'est beaucoup des automatismes quand même, donc il faut que les joueurs apprennent à se connaître, quelle que soit l'équipe d'ailleurs. Autant l'attaque, on peut avoir des solistes qui partent en cavalier seul, on va dire, mais la défense, si on n'est pas sûr de son partenaire de droite ou de gauche, c'est compliqué de défendre. Donc il n'y a que le fait de jouer ensemble et de s'entraîner ensemble qui pourra leur créer ça, et la répétition des matchs arrivant, ça devrait rentrer dans l'ordre.
Olivier Deugnot, le supporter du PSG que vous êtes, doit être content aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Mais moi, je te cache pas que j'ai quand même un petit peu lâché le foot là pour l'instant, puisqu'on est sur la préparation des Jeux Paralympiques. Mais j'ai quand même regardé bien sûr les résultats. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même des équipes qui ont du mal à se mettre en route. Il faut attendre, mais en effet, les 3, 4, 5 premières journées pour voir à peu près une hiérarchie qui va se mettre en place, parce que c'est compliqué, comme tu le disais tout à l'heure, de les débuts de saison, s'il y a eu pas mal de changements dans une équipe, c'est quand même toujours assez compliqué de que le collectif se mette en place. Et c'est sur du long terme qu'on voit un peu les grosses équipes qui commencent à tourner.
C'est ça, la vérité du mois d'août n'est pas celle de la fin de saison.
Exactement, c'est long, hein. Une saison c'est très long, puis tu vois bien le PSG qui commence à 200 à l'heure, ils ont un peu écrémé leur effectif, et à mon avis c'est une très bonne chose. Avec l'entraîneur qu'ils ont, ils ne pouvaient pas se permettre non plus de démarrer à 2 à l'heure, et là c'est en fonction des entraîneurs, du système de jeu qu'ils vont mettre en place, et quand tu as des entraîneurs qui font courir les joueurs avec un pressing haut et presque 24-24 sur le terrain, quand t'as trop de stars, après ça marche pas trop. Et tu vois ce qui va se passer au PSG, la façon de jouer de Henrique, va demander que les joueurs adhèrent à 100% à son système de jeu. Et c'est toujours pareil, il suffit qu'il y ait 1, 2, 3 joueurs qui n'adhèrent pas à un système de jeu pour que tout se casse la figure sur certains systèmes. Et là, petit à petit, je crois que chaque entraîneur de chaque équipe va mettre en place des systèmes. Mais on arrive toujours à avoir des grosses surprises en début de saison. Hein. Moi, je me rappelle de la grande époque de Giroud qui prenait un paquet de points en début de saison en se disant tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Puis ça lui a permis d'être champion de France une année comme ça, en partant à 2000 à l'heure. Quoi.
C'est vrai. On a quand même des équipes qui démarrent timidement, on va dire. On a Brest qui va quand même jouer la Ligue des Champions et qui a été battu à Lens 2-0. On les sent, alors qu'il n'y a pas eu tant de changements que ça dans l'effectif, on ne les sent pas du tout dans la même dynamique que sur la fin de saison de l'année dernière, Grégory Sirg.
C'est ça, bah, c'est ce qu'on disait en antenne juste avant l'émission. Moi, Brest, ça me fait penser à l'équipe du TFC saison 2007-2008. Ils font une belle saison et finissent par se qualifier en Ligue des Champions. La saison d'après, bah, le niveau de la Ligue des Champions n'est pas le même que celui de la Ligue 1. La répétition des matchs n'aidant pas, ils se sont sauvés à la dernière journée. Donc j'ai un peu peur pour Brest, parce qu'en plus ils sont tombés, ils sont bien évidemment pas tête de chapeau, donc ils sont tombés dans une grosse poule. Donc ça va quand même être très très compliqué pour eux cette saison. Ça m'inquiète pour eux. Quoi.
Bon, on a aussi Lille qui est quand même aussi toujours solide aux avant-postes, hein, avec le PSG, avec Lens et avec Monaco, qui a gagné 2-0 contre Angers. On sent que les Lillois sont très solides. Ils sont surtout peut-être plus en avance dans leur préparation que les autres, puisqu'ils ont joué deux tours préliminaires de Ligue des Champions. Ils vont jouer le match retour cette semaine. On les sent vraiment, c'est presque l'équipe la plus solide, je pense, du plateau pour l'instant.
Ça, et puis quoi qu'on dise de lui, ils ont quand même recruté Bruno Genesio comme entraîneur à l'intersaison. Il a été beaucoup décrié à Lyon, mais ensuite il a prouvé à Rennes que c'était un très bon entraîneur pour la Ligue 1. Donc là, il va certainement faire pareil à Lille avec un jeu assez collectif. Quoi.
Olivier Degnaud, on a aussi une victoire du FC Nantes d'Antoine Comboiré contre la JOCR. Vous avez un petit commentaire sur le FC Nantes d'Antoine Comboiré?
Bah oui, évidemment. Bah, Antoine, lui, il a dû démarrer la préparation physique pour être en forme dès les premiers matchs. Alors, comme tu disais, ceux qui avaient la Champions League ou les tours préliminaires se sont trouvés à être prêts avant les autres, probablement. Mais oui, connaissant le mode de préparation du FC Nantes avec Antoine Comboiré, je pense que là, il a mis tous les ingrédients pour être performant dès les premières rencontres du championnat. On sait que Nantes a souvent du mal à finir en ce moment, quoi. Ou alors l'inverse, où ils vont se lever au dernier moment. Mais ce qui est compliqué, c'est quand t'as la pression sur une saison, c'est compliqué de repartir avec les mêmes intentions la saison suivante. Hein, parce que quand il y a une coupure, après retrouver le même fonctionnement, la même alchimie entre les joueurs, c'est pas toujours évident d'avoir, comme je le disais, le collectif à 2000% avec le même projet. Hein, c'est là où on voit que le mental d'un collectif est quand même prépondérant dans beaucoup de championnats. On l'a vu encore dans les sports courts aux Jeux Olympiques, hein, avec des équipes qui débutaient mal leur premier match, que ce soit en hand, en volley, en basket, et puis qui finissent à 2000 à l'heure.
C'est là aussi où on voit l'intérêt de la stabilité, puisque voilà, on a des équipes qui malgré leur stabilité n'y arrivent pas. Je pense à Lyon qui a quand même fait un début de saison qu'on n'attendait pas comme ça, qui finalement est à l'instar de celui de l'année dernière, avec deux défaites pour l'instant. Et puis Nice. Alors Nice a changé d'entraîneur. Ils ont pris Franck Haise. Et voilà, on sent que pour l'instant, ce n'est pas encore complètement rodé. Hein. Une défaite sur la première journée, un match nul contre Toulouse. Voilà, on attend forcément mieux de cette équipe-là, de ces deux équipes-là, parce que Lyon avait très très bien terminé. C'était la meilleure équipe quasiment sur la deuxième partie de
saison.
Donc, on ne s'attendait pas à un début de saison lyonnais aussi difficile.
Non, et puis comme on le disait juste avant aussi, la vérité du mois d'août n'est pas celle de la fin d'année, parce que pour une très simple raison, c'est que le mercato n'est pas fini. Donc les effectifs ne sont pas affinés, les entraîneurs n'ont pas tous leurs joueurs à disposition, et des fois ils peuvent miser sur un joueur, mais il va y avoir une offre mirobolante et le président du club va le laisser partir, et ça remet en cause toute la stratégie derrière, donc c'est assez compliqué de faire des pronostics encore.
Si je dis pas de bêtises, le mercato, c'est jusqu'au 31 août à minuit.
C'est ça.
À 23h59 pour le coup.
Oui, parce qu'il y a eu des transferts à avorter à cause de fax arrivés à minuit ou de mails.
Ou de mails arrivés hors délai.
Hors délai.
Un petit mot donc sur Lille, on en a parlé, qui jouera sa qualification en Ligue des Champions jeudi matin contre le Slavia de Prague. Les Lillois se sont imposés à l'aller 2-0, donc ils partent quand même avec un ballotage très favorable. Et puis le tirage au sort de cette Ligue des Champions aura lieu en fin de semaine. Et pour rappel, Paris, Monaco et Brest sont concernés. Et on espère que Lille sera le quatrième représentant français de cette Ligue des Champions. Ça serait sympa, Olivier Degnaud, d'avoir quatre clubs français dans cette Ligue des Champions, nouvelle formule.
Alors j'ai pas l'historique, mais on a déjà eu quatre clubs en Ligue des Champions.
Non, trois oui, mais quatre non.
Ouais, trois oui, mais quatre non, tu vois, t'imagines. Ça prouve quand même qu'on n'est pas si mauvais que ça au niveau du football français. Mais encore une fois, je te dis, la vérité des matchs de compétition, c'est pas la vérité des matchs de préparation ou des matchs amicaux. Et l'intensité de jeu n'est jamais la même. On le voit quand on analyse les données des GPS hein, qu'ont les joueurs sur le terrain. Que ce soit les courses à haute intensité, les kilomètres parcourus, etc. C'est complètement différent entre ce qui se passe dans des matchs de préparation, des matchs amicaux, dits amicaux, et les matchs de compétition. Et c'est là-dessus, je pense, que tous les préparateurs physiques et les techniciens entraîneurs vont analyser, puis voir chaque joueur, chaque collectif pour réajuster. Parce que c'est... ça pardonne pas, quoi. Je veux dire, tu vois, avec le GPS, tu vois clairement ce qui se passe sur le terrain et tu as des données qu'on n'a pas toujours à l'œil nu. Hein. Alors, un œil exercé, bien sûr, je vois, mais après, tu peux voir en fonction des intentions que demande chaque entraîneur à chaque joueur, dans chaque pote, chaque partie du terrain, quoi. Et c'est vraiment pas du tout la même chose. Quoi. Quand le championnat débute, c'est comme ça qu'on a souvent des surprises.
C'est ça, difficulté est de rester constant au plus haut niveau pour l'ensemble des joueurs, alors que souvent ça démarre très très fort et on sent qu'il y a un coup de pompe arrivé au mois d'octobre-novembre.
Avec le froid qui arrive.
Avec le froid, l'accumulation des matchs, les clubs qui jouent la Coupe d'Europe.
Le PSG a souvent connu la crise de novembre.
Ouais. Donc, les blessures qui arrivent, surtout, c'est ça qui est compliqué à gérer la plupart du temps.
Bah, d'où un effectif important et un banc de touche conséquent. On va passer à la Formule 1. Max Verstappen ne s'est pas imposé chez lui.
Et non, pour la première fois
depuis 2021.
Le Grand Prix des Pays-Bas revient.
Voilà, qui était à Zandvoort.
C'est ça.
Et donc, c'est Lando Norris sur McLaren qui s'est imposé devant le Néerlandais.
C'est ça, alors que pourtant, Max Verstappen avait peut-être cru... faire le plus dur dès le premier virage en repassant en tête. Pourtant, ils ont eu le même temps de réaction, mais on a l'impression qu'un rapport s'est pas passé sur la voiture de Norris. Ça a tenu à peu près 12-15 tours, Max Verstappen en tête, et ensuite Norris a déroulé. Ils avaient pas du tout le même rythme de course. Norris a fini avec 23 secondes d'avance sur Verstappen. J'ai pas souvenir que c'était arrivé récemment. Une nouvelle victoire qui n'est pas celle de Verstappen, ça fait déjà 5 grands prix
consécutifs, c'est ça.
Consécutifs, je crois pas que c'était arrivé non plus depuis très longtemps. Et au classement pilote, il y a quand même encore une certaine avance de Verstappen.
Points.
Mais au classement constructeur, il y a que 30 points, il me semble, qui séparent Red Bull de McLaren. Sachant que Piastri est régulier lui aussi. En fin de saison, ça peut compter ce genre de points laissés en route au classement constructeur.
Parce qu'on n'en parle pas, mais Oscar Piastri, l'Australien, est quatrième.
C'est ça, quatrième du Grand Prix. Je ne sais même pas s'il n'est pas quatrième du championnat également.
Et au championnat du monde, il est quatrième aussi.
C'est bien ça. Donc, à surveiller McLaren, ils ont fait des... au final, ils restent sur la fin de saison dernière où ils avaient enfin su trouver des petites feintes avec la réglementation, on va dire, des petites améliorations techniques. Là, ils en ont apporté de nouvelles. Ça a plutôt très bien marché. Une écurie qui est vraiment à suivre. Contrairement à d'autres peut-être qui rentrent un peu plus dans le rang. Je pense par exemple à Mercedes ou à Aston Martin qui n'ont pas forcément brillé ce week-end, tant par les voitures que par les choix stratégiques des teams aussi.
Alors on a quand même Verstappen qui ne gagne pas, on l'a dit, depuis 5 Grands Prix. C'est un coup de moins bien de Verstappen et Red Bull Racing, ou est-ce que les autres se rapprochent petit à petit et commencent à contester un peu l'hégémonie de Verstappen et de son équipe?
Peut-être les deux, même si on a vu sur les Grands Prix que Verstappen a gagné qu'il n'y avait pas de concurrence en face. Est-ce qu'il y a un coup de moins bien? Il a exprimé récemment une certaine lassitude aussi, donc... est-ce que c'est dans la tête qu'il a besoin de se recentrer? Je ne sais pas précisément quelle est la cause, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que McLaren se rapproche. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Olivier Deneuve, vous avez un peu suivi la Formule 1 ce week-end?
Alors là, je ne te cache pas du tout. J'étais sur les terrains, sur les entraînements en réunion. J'ai regardé les résultats, mais je n'ai pas pu ça. Désolé, là, j'étais trop allez, occupé. Là.
On reviendra aux Jeux paralympiques après. Il y a un petit mot sur les Ferrari qui font pas de bruit, j'ai envie de dire, mais qui sont quand même là, 3e et 5e de ce Grand Prix.
C'est ça.
Avec Charles Leclerc et Sainz.
Charles Leclerc a su profiter de Piastri à un moment qui a ralenti dans sa course pour une raison assez incompréhensible. Donc Piastri n'a pas pu rattraper Leclerc par la suite. Et Sainz aussi, qui continue sans faire de bruit, toujours à être très régulier. Donc voilà, non, les Ferrari qui font pas de bruit, mais qui à mon sens, perdent du terrain sur McLaren pour le classement constructeur. Après, Ferrari, la semaine prochaine, c'est le Grand Prix de Monza.
C'est ça.
C'est chez eux, leur fief, avec tous les tifosi qui sont là. Donc ça peut changer quelque chose dans l'envie de gagner la course, justement.
Ah bah, je pense que l'envie, ils l'ont. Et il va falloir être capable de la matérialiser.
Ça sera peut-être freiner un peu plus tard.
sans prendre le risque de casser la voiture. Effectivement, le week-end prochain sera Grand Prix d'Italie à Monza. Ça sera la 16e manche du championnat du monde. Et donc, on verra si les Ferrari arrivent à s'imposer chez elles.
Oui, puis c'est un circuit qui est toujours particulier, le plus rapide. Et là, il a été entièrement resurfacé. Donc, résultat, aucun des pilotes n'aura de repères, finalement, puisque la surface est totalement nouvelle. Donc, le grip n'est pas le même, les freinages ne sont pas les mêmes. Ça va être assez intéressant.
J'allais dire que tout le monde est sur un pied d'égalité, ce qui est le cas tous les week-ends. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de feedback par rapport aux années précédentes.
C'est ça, il y aura moins de données à analyser, là.
Olivier Denis, on va revenir avec vous avec les Jeux paralympiques qui débuteront donc mercredi avec la cérémonie d'ouverture. Donc les Jeux, je le rappelle, se dérouleront du 28 août au 8 septembre. On aura 11 jours de compétition, 22 parasports au programme, 23 disciplines en tout pour un total de 549 épreuves. Olivier Denis, donc vous êtes à Paris avec la sélection de l'équipe de France d'athlétisme. On va faire un petit focus sur nos Calédoniens. Vous pouvez nous rappeler les trois athlètes calédoniens qui sont engagés dans ces Jeux Olympiques ?
Alors oui, tu as Vittorio Cavacava, qui est en fauteuil, qui fait le lancer de javelot, le lancer de poids en fauteuil. Tu as Félicien Siapo, qui est un petit jeune de l'IFU, lui fera le 100 mètres. Et puis tu as bien sûr Pierre Fairbank, qui court le fauteuil, qui fera l'inoxydable, comme tu dis, l'indéboulonnable Pierre Fairbank. Ils vont nous faire le 100, le 400 et le 800 mètres. Bon, voilà, et eux, ils vont rentrer pour leur part en compétition à partir du 30 août.
Ok. Donc, on les suivra bien évidemment avec attention. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez sur les terrains d'entraînement ce week-end, donc vous n'avez pas pu suivre toute l'actualité. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de nos athlètes ? Dans quelle forme ils sont ?
Bah, écoute, franchement, là, je crois que ça soit les trois Calédoniens, plus le reste de l'équipe de France, ils sont en super forme. On a mis en place tout ce qu'on pouvait mettre en place au niveau de la team de l'équipe de France pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Là, on est actuellement encore en camp de préparation sur l'INSEP, l'Institut National du Sport, là, sur Paris, avec les triathlètes, avec les gars du tennis. Bah, les tennis de table est rentré hier au village, mais tu vois, le village est ouvert depuis le 22 septembre, et nous, on a pris l'option de rester en base arrière sur l'INSEP pour continuer à se préparer, je dirais, tranquillement, c'est un terme, au niveau de l'état d'esprit, et ne pas être sollicité.
Médiatiquement, notamment.
Médiatiquement, on a fait enfermer, donc on a des attachés de presse qui verrouillent, et par toutes les tentations du village et toutes les sollicitations, que ça soit de croiser énormément de monde, des adversaires, c'est open bar, le village, que ça soit au niveau de la bouffe, au niveau des jeux, au niveau de. C'est des sollicitations 24 sur 24, les gens qui vont discuter à droite, à gauche. Et là, on a tout misé sur l'entraînement, la récupération, être focus sur leurs objectifs. Hein, c'est la dernière ligne droite. Il n'y a plus grand-chose, plus longtemps à tenir avant de lâcher les fauves dans l'arène, puisque la cérémonie d'ouverture, comme tu l'as dit, c'est le 28 au soir.
C'est ça, mercredi.
Je pense que ça sera grandiose. Ça sera peut-être pas. Enfin, je sais pas. On nous a promis quelque chose d'assez important pour cette cérémonie. Et je crois qu'elle sera transmise à la télé, en direct aussi, d'ailleurs, comme la cérémonie des valides. Voilà. Donc, à partir de là, une fois que tu rentres au village, ça sera. Là, tu rentres vraiment dans les jeux. Alors, pour info, Pierre rentre au village. La moitié de l'équipe de France va rentrer au village le 27, c'est-à-dire demain. Okay. Il y a des conférences de presse qui sont organisées encore demain. Et Vittorio et Félicien vont rentrer le 28, hein, le soir de la cérémonie, ou le lendemain de la cérémonie, plutôt le 29, de façon à être tranquille pour leurs derniers entraînements.
Ok, et vous commencez à sentir une certaine pression du public, vous sentez la présence un peu du public, comme ont pu sentir les valides il y a une quinzaine de jours, trois semaines.
Écoute, oui, honnêtement, on en parle énormément, j'entends énormément, quand je suis en voiture, j'entends à la radio, ça en parle énormément. Je vois les sollicitations qu'il y a pour tous les sportifs, pas que les athlètes, hein, les nageurs, les triathlons, enfin, tous les basket-fauteuils sont très sollicités, il y a des affiches un peu partout, c'est, ouais, ça va être des jeux grandioses. Alors, bon, j'ai eu l'occasion de me balader un peu sur les Jeux Olympiques. Ça commence à arriver. Ouais. Donc, je me suis arrêté le jour pour prendre un café. Ouais, j'avais le maillot France. Tout de suite, t'es abordé. Les gens, dans les Paralympiques, etc. Donc, ouais, le public s'intéresse énormément. Et les étrangers que j'ai croisés, que je connais, sont enchantés par tout ce qu'ils voient pour l'instant sur les sites d'entraînement. Toujours pareil. Hein. On met en avant les sites d'entraînement de la France, hein, que ce soit au niveau des Invalides, de la Tour Eiffel, de Versailles, le Grand Palais pour l'escrime. Enfin, c'est des jeux qui sont vraiment magnifiques, ceux qui ont vécu les deux, parce qu'il y a des entraîneurs qui sont présents dans certaines nations qui font et les Olympiques et qui enchaînent avec les Paralympiques. Moi, j'ai eu que des retours positifs des jeux organisés par la France.
Bon, et nos athlètes, comment ils ressentent cette pression? Ils sentent cette attente ou ils arrivent à s'en... s'en alimenter ou ils le vivent comme un poids?
Ils vont s'en alimenter, c'est un peu le but de ce camp d'entraînement là, c'est vraiment de faire monter la pression progressivement et pas que ça leur tombe dessus d'un seul coup comme une chape de plomb quand tu arrives au village. Et puis tu vois les bénévoles, ils sont sympas, c'est très gentil les bénévoles, mais dès qu'ils voient un Français, ils sont, t'en as certains qui viennent sans arrêt, qui sautent dessus, et à un moment donné, t'as besoin d'un peu de tranquillité. Mais bon, c'est la rançon de la gloire, comme on dit. Mais ce camp d'entraînement là, qui a été mis en place par le comité paralympique, et pour moi est bénéfique pour justement faire monter cette pression progressivement. Il y a des réunions, ce soir on a la dernière réunion d'équipe où toute l'équipe va être ensemble avec des interventions de sportifs extérieurs. On leur fait des surprises, on leur amène des grands sportifs de renom qui ont brillé déjà dans des Jeux Olympiques et notamment à domicile, qui ont brillé ici là, il n'y a pas longtemps, hein, c'est de très grands renoms, je peux pas te le dévoiler parce que c'est la surprise et faut pas que personne ne sache.
Mais un certain Léon M.
Ce sera pas lui, mais il y en aura d'autres là, qui vont venir, qui sont présents à Paris en ce moment et qui sont présents pour la cérémonie d'ouverture justement après-demain. Et ils vont venir échanger justement sur ce côté pression, jeu à domicile, parce que le Stade de France, il va être pour l'athlétisme. Moi, je te parle des autres aussi, mais puisque nous, on est concernés par l'athlétisme, le Stade de France, j'ai l'occasion d'aller dedans rapidement. Il est très beau, il est impressionnant, et j'imagine que rempli, ce que me disaient les athlètes qui ont vécu là. On n'entend rien quand le public se met à applaudir, à crier. C'est un bruit de fou. Et c'est vrai que dans le mouvement du para-athlétisme, on n'est pas trop habitué à avoir autant de spectateurs d'un coup. Donc on les prépare à ça, de façon à ce que tu me disais tout à l'heure, à ce qu'ils se nourrissent de cet engouement et de cette ferveur populaire. Et qu'ils ne soient pas impressionnés, justement, par trop de pression. C'est un peu le danger d'être paralysé par la peur, quoi. Ouais. C'est plutôt d'être galvanisé. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit galvanisé et que ça les emmène vers les sommets.
Donc c'est presque là-dessus que va emporter les dernières heures de travail avant les compétitions.
Là, de toute façon, c'est simple, ils sont prêts. Ils sont prêts ou ils sont pas prêts. C'est pas aujourd'hui qu'on va... Non, mais c'est ça, les 3-4 derniers jours avant une compétition, soit t'es prêt, soit t'es pas prêt. Bon, il se trouve que moi, j'ai l'impression vraiment que tous les athlètes français sont prêts, que les 3 Calédoniens qui sont présents sont prêts, parce qu'il ne faut pas oublier que Vitolio et Sébastien ont quand même choisi de rester là depuis les championnats de France. Ça veut dire qu'on est là depuis le 6 juillet. Quoi. Donc et Pierre a fait l'aller-retour, mais il est arrivé quand même le 10, peut-être avant, il est arrivé le 8 août ici. Donc ça fait quand même des séjours très longs. Et vous savez comme moi, quand on habite en Nouvelle-Calédonie, partir aussi longtemps, ça peut être compliqué hein, par rapport à... Le mal du pays, la famille, ce que je comprends, hein, c'est vrai que c'est pas évident. Donc on a fait en sorte que ça se passe bien. Donc là, on a avec nous Eric Reuillard, qui fait partie de l'équipe de France également au niveau de la logistique. Eric est entraîneur, hein, bien sûr, il va s'occuper du Togo et puis il est entraîneur polyvalent, comme tout le monde le sait. Donc il est avec le poste de logistique, puisque José, malheureusement, n'a pas pu être des nôtres. Mais vraiment, là, on a tout fait en... Il fait pour que tout soit bien et que le moral soit au top. Et puis là, il y a des très très bons échanges avec les Français dans ce stage préparatoire, et c'est vraiment sympa. Il y a Pierre Ferbon qui veut petit déjeuner, là. Il passe devant moi.
Bon, vous lui passez le bonjour de notre part. On va vous demander, Olivier, une estimation de médaille pour nos trois athlètes calédoniens.
Ah non, je ne te donne pas d'estimation de médaille.
Non. Allez, un petit risque.
Pas loin du podium, voire sur le podium. Non, tu ne peux pas. Ils sont prêts, les autres aussi. Mais bien sûr qu'on espère le podium, bien sûr. Mais après c'est dans l'arène que ça se passe. Ça leur appartient. Nous, on va faire en sorte qu'ils arrivent le plus... avec le mental le plus fort possible, et puis une fois qu'ils seront dans le stade, c'est eux, comme on va leur dire, c'est eux qui vont écrire leur histoire, ça leur appartient.
Bon, on mettra en place entre nous une alerte breloque à chaque fois qu'il y aura une médaille.
Voilà. Mais j'ai confiance en tout cas. Vous connaissez nos athlètes, ils ne sont pas venus ici, ils ne sont pas restés ici pour faire de la figuration, ça c'est sûr.
Bon, on leur souhaite tout le meilleur pour ces jeux à venir et une belle cérémonie d'ouverture.
Ouais, je te remercie.
On va passer.
Par contre, je vais devoir vous laisser. Ça vous dure. Ah, vas-y, on n'a plus
alors,
pour longtemps.
Non, on va passer au débat. Si vous pouvez rester encore un petit peu, parce que je sais qu'il va, il va vous concerner, vous intéresser. On a une multiplicité de chaînes sportives de plus en plus à tous les niveaux, que ce soit en France ou ailleurs. Et il devient malgré tout de plus en plus compliqué de suivre le sport. C'est-à-dire qu'il y a énormément de chaînes à péage. Si je prends l'exemple de la Ligue 1 de football, qui est désormais sur le média qui s'appelle DAZN, sauf un match par journée, mais tous les autres sont sur DAZN. Donc, Il faut payer 30 euros par mois pour pouvoir accéder à ces matchs-là. DAZN, pour rappel, c'est un service de streaming sportif par abonnement qui est d'origine britannique. L'athlétisme n'est quasiment plus accessible au niveau télévisuel en France, à part pendant les Jeux Olympiques. Le reste de l'année, on ne peut pas voir. Ce week-end, il y a eu un meeting formidable en Pologne, avec Duplantis qui bat un nouveau record du monde, avec Ingebrigtsen qui bat le record du monde du 3000. Et il faut aller sur YouTube pour pouvoir voir les images. La F1 est accessible sur Canal+ depuis un certain nombre d'années, mais ça reste aussi une chaîne payante. Donc aujourd'hui, on le disait avec Grégory en préambule de cette émission, en boxe, ça existe aussi depuis très longtemps, ce qu'on appelait le pay-per-view à l'époque. Comment vous vivez ça, vous, en tant qu'amateur de sport? Comment vous vous dites, je veux pouvoir suivre mon sport? Aujourd'hui, par exemple, en Calédonie, on ne peut plus voir les matchs de football de L1, sauf à s'abonner à DAZN. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Olivier Degnaud?
Je trouve ça vraiment très, très, très dommageable. Et là, je voyais, là, les jeunes qui ont suivi les matchs, je ne sais plus, il y avait le match du PSG, là, justement, contre Montpellier. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour notre ami Montpellier, hein, Olivier, c'est à qui je pense.
Oui.
Mais on regardait ça, ils ont été sur des serveurs étrangers, je crois qu'ils ont été sur des chaînes avec des VPN.
En fait,
hier, on a regardé la Diamond League, ils ont été sur une chaîne polonaise parce que c'était en Pologne. Enfin, maintenant, en fait, tout le monde utilise des
services de streaming piratés.
Des streaming piratés. Et puis, voilà, alors je sais pas, moi je suis pas très doué là-dessus, mais ça fait chier quoi de pas pouvoir suivre les émissions on est abonné à beIN Sport et à Eurosport et puis finalement tu te retrouves avec j'ai rien contre le billard ou contre le bowling ou les fléchettes, mais à un moment donné c'est pas ce qui m'intéresse le plus, ça sert pas la pétanque, mais après on te dit c'est une question de gros sous finalement, hein. C'est comme pour les Jeux Olympiques, hein. c'est les droits télé qui vont financer tout ça, quoi.
C'est ça, alors malgré tout, si on revient sur cette histoire de droits et d'acquisition de droits, et pour reprendre l'exemple de la Ligue 1 de football, la Ligue nationale de football voulait 1 milliard d'euros pour les droits télé de la Ligue 1. Elle les a finalement cédés à DAZN pour 500 millions d'euros. Donc elle a dû revoir sa copie de moitié. Et au final, aujourd'hui, il y a assez peu de gens pour l'instant qui achètent des matchs ou qui se sont abonnés à DAZN. Donc, il y a un moment où est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec ce qui s'est passé il y a quelques années sur beIN Sport.
À contrario, j'entendais qu'il y avait de plus en plus de personnes qui prenaient des abonnements dans les stades parce qu'ils trouvaient que les abonnements de télé coûtaient trop cher. Donc, du coup, ils se retournaient vers carrément d'aller voir leur équipe dans les stades.
Ah bah selon la ville où vous habitez, 30 euros, vous avez une bonne place. Absolument.
Bah c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
Grégory Cyr, qu'est-ce que ça vous inspire, ce sujet?
Pour ma part, il n'y a pas de surprise. C'est un peu l'évolution de logique, entre guillemets, de l'économie du sport, à tort ou à raison. Il y a ce phénomène, on le voit dans le cinéma et les séries de Netflix. Là, en fin de compte, DAZN, c'est le Netflix du sport. On peut s'abonner et payer que pour voir un match par journée. On peut s'abonner et voir l'exhaustivité des matchs de la journée. On est vraiment dans la consommation à la carte par personne. La particularité avec DAZN, c'est qu'en plus, ils ont fait une espèce d'offre bizarre où il y a des matchs où il n'y a pas de commentateur, il y a des matchs qui ne sont tout simplement pas diffusés. Ils ont même fait modifier le calendrier. Avant, il y avait un multiplex le dimanche après-midi, il n'y est plus.
Les matchs de Ligue 2 ne sont plus en week-end, mais
les matchs de Ligue 2 sont plus le week-end, mais la semaine. Pour avoir été abonné durant mes études au stade, c'est quand même très compliqué d'aller voir des matchs en semaine. Nous, c'était juste la Coupe de France et c'était déjà galère. Donc, au final, on se rend compte que c'est les diffuseurs qui dictent le calendrier de la saison. C'est plus... Bon, les supporters ont rarement leur mot à dire, mais c'est pas la logique sportive qui prévaut, c'est vraiment le calendrier. Même quand ils avaient diffusé des matchs qui correspondent à une heure en Chine, c'était le dimanche à midi. Enfin, ça n'a pas de sens. Les gens mangent le dimanche à midi, ils sont pas au stade. Donc, en fin de compte, ça suit la logique. Le but, c'est d'essayer de vendre un maximum. Là, la Brune et la LFP se sont cassés les dents parce que... La Brune et la LFP se sont cassés les dents parce qu'ils avaient estimé une certaine valeur à la Ligue 1, pas confondre la valeur et le prix qu'ils ont vendu. Et le prix qu'ils ont vendu, qui était l'issue d'une négociation, le problème, c'est qu'ils avaient écœuré tous les diffuseurs autour et il ne restait que DAZN qui a pointé le bout de son nez pour acheter la Ligue 1 un peu au rabais. Sachant que la DAZN, ils ont également les droits pour la Serie A, je ne sais pas s'ils n'ont pas les droits pour le championnat anglais aussi, pour l'UFC, pour la Ligue de basket française. Enfin, ils ont pas mal de sports déjà, donc il doit quand même y avoir un sens. S'ils ont autant de trucs, ils n'arrivent pas par hasard non plus.
Non, mais on sent une volonté de DAZN, pour ne parler que d'eux, de vraiment mettre un pied très très fort dans le sport et le football particulièrement. Mais effectivement, on se retrouve, vous l'avez dit, dans une situation aujourd'hui où la Serie A en France n'est plus accessible. On ne peut plus suivre les matchs du championnat d'Italie, du calcio. Donc c'est quand même incongru quand on pense et qu'on a connu toutes les années Canal, pour citer Canal, qui a quand même fait beaucoup pour le football en France et dans sa diffusion. Bah aujourd'hui, on ne voit plus les matchs de Serie A. Donc on est quand même dans une situation qui est assez incroyable.
C'est ça. Et puis si on est amateur de la Ligue 1 et de foot en général, donc il faut payer DAZN pour regarder la Ligue 1, il faut payer Canal pour regarder la Champions League, il faut payer BeIN pour regarder le championnat espagnol, allemand, etc. Il faut payer RMC Sport pour regarder l'Europa League ou la Conference League. Enfin, ça fait déjà 4 abonnements, chacun à 4000 francs par mois, quoi. C'est pas la portée de toutes les bourses, quoi.
Non, c'est voilà. Donc peut-être que même si c'est la logique économique du sport aujourd'hui, je suis pas sûr que DAZN et la Ligue de football s'y retrouvent. Encore une fois, on fait un petit focus sur le football parce que c'est l'exemple le plus criant. Mais comme l'a dit Olivier Deniaux, ça permet aussi à certains sports d'être diffusés qui sont habituellement moins médiatisés. Voilà, il faut arriver à contenter aussi bien les sports très populaires que les sports qui le sont moins, qui permettent d'avoir un peu des taux d'audience aussi et de la diffusion.
Oui, et pour revenir à l'athlétisme, qui est plus la spécialité d'Olivier que la mienne, c'est dommage quand on voit l'engouement qu'il y a eu autour des Jeux Olympiques, que ça devienne presque confidentiel de pouvoir regarder de l'athlétisme à la télé, alors que c'était sur France TV, qui est la chaîne du service public.
Hier soir, c'était compliqué, de voir la Diamond League, surtout qu'il y a un record du monde du 3000, Duplantis a encore battu un record du monde, à la perche, tu vois, c'est bien compliqué, quoi. C'est vrai. Mais je ne sais pas si on s'y retrouvera au niveau du foot, parce qu'à un moment donné, les gens vont en avoir marre de payer.
Je pense que c'est déjà le cas, mais après, DAZN aura-t-il les reins assez solides pour supporter le fait qu'il n'y ait pas forcément beaucoup d'abonnements, que ça ne génère pas forcément beaucoup d'abonnements. Donc, ils auront une question à se poser, et la Ligue aura sa responsabilité, je pense, à prendre sur ce sujet-là aussi. Messieurs, on va clore ce sujet. Je vais vous demander vos coups de cœur pour terminer cette émission. Olivier Deneau, on va commencer par vous, comme ça je vais pouvoir vous libérer.
Là, je dois y aller, je dois filer au village, justement, au village olympique. Enfin, mon coup de cœur, c'est pour les trois Calédoniens qui sont aux Jeux paralympiques, quand même. On peut pas passer à travers. J'espère que tous les Calédoniens seront derrière eux. Et puis, le début des compètes pour eux, le 30 pour Vittorio Felicia et le 1er septembre, le 400 mètres pour Pierre Fairbank. Donc il a des séries le matin de Paris, c'est à peu près à cette heure-là. Non, c'est à midi, donc ça sera à 21h pour vous, le 1er septembre. Okay.
Vous pouvez nous rappeler dans quelle discipline Pierre est inscrit dans...
400. Là, il commence par le 400 le 1er septembre. Après le 5, il a le 100 mètres. Et le 6, il aura le 800 mètres. Et puis Vitolio, c'est le javelot et le poids. Et Félicien Siapo, c'est le 100 mètres.
Ok.
Là, je t'enverrai un petit topo avec les horaires des épreuves parce que c'est compliqué à lire un calendrier. Il y a 18 épreuves de 100 mètres.
Ok. dans les différents types de handicap. On suivra ça avec attention. Olivier Donio, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Je vous abandonne là.
Merci.
Je dois aller prendre un petit café avant de filer au village.
Allez, bonne journée, au revoir.
Ciao. La bise à vous.
Grégory Sirgue, on va terminer avec vous et donc votre coup de cœur.
D'abord, je rejoins totalement Olivier sur les encouragements à nos athlètes calédoniens. Paralympiques, on leur souhaite le meilleur également de rendre fier le pays, de donner une plus belle image que celle qu'on a donnée ces derniers temps en métropole, et également un coup de cœur pour la Fédération calédonienne de football qui a lancé un genre de mini-compétition des clubs qui sont sur Nouméa et Grand Nouméa pour permettre de faire revivre un peu le championnat de foot, donc ça c'est une initiative qui a salué quand même.
Voilà, et eh bien c'était le coup de cœur de Grégory Sirgue. Merci à tous les deux d'avoir été présents ce soir. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle semaine Sportmidable.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine Sportmidable sur Radio Rythme Bleu.